Alors j'ai longtemps hésité et prié avant de savoir si j'allais commencer une série sur le livre de l'Apocalypse. Et finalement, ça s'est imposé à moi de plus en plus que j'y pensais, parce que nous sommes dans une période très troublée, beaucoup d'événements, beaucoup de choses se mettent en place, beaucoup d'inquiétudes dans les cœurs aussi grandissent. Et il m'a semblé bon de regarder ce livre qui est extraordinaire, qui fait peur alors qu'il est plein de bénédictions et de choses magnifiques. Mais c'est vrai que ces bénédictions sont pour les croyants. Car ceux qui sont incrédules, qui refusent la grâce de Dieu, malheureusement vont vivre des choses difficiles. Et c'est aussi un moyen de les avertir, de leur dire, c'est le moment de se tourner vers le Seigneur. Nous sommes à la fin des temps. Bien sûr, nous ne verrons aucune date, nous n'allons pas dire, voilà, c'est le 21 décembre 2012 ou je ne sais pas quoi. On laisse ça aux Mayas et aux autres interprètes des Mayas. Mais nous allons regarder des choses fantastiques dans ce livre de prophétie qui s'appelle l'Apocalypse de Saint Jean. Est-ce que vous aimez les histoires qui finissent bien? Vous avez remarqué que les films américains finissent toujours bien et les films français finissent mal souvent? En France, on a cette idée que ça doit mal finir. Et on a ce côté pessimiste un petit peu. Et les Américains gardent leur côté enfantin. Parce que quand on est enfant, on veut que le gentil gagne et que le méchant perde. Et si c'est le méchant qui gagne, on sort de là, on est très troublé, on se dit, mais est-ce qu'il va perdre un moment ou pas? Est-ce que... Et le livre de l'Apocalypse, c'est un peu ça. C'est la fin de l'histoire de l'humanité, la fin de l'histoire de la Terre, et ce que l'on voit, c'est que Dieu triomphe, Jésus-Christ triomphe. Avant cela, c'est sûr, il y a beaucoup de mal, beaucoup d'influence, notamment de la part de Satan, l'ange déchu, l'ange rebelle à Dieu, qui influence des hommes et qui les fait suivre par ses démons. Mais ce mal va être un jour définitivement éradiqué de la terre. Il n'y aura plus de péché, plus de violence, plus d'injustice. Quelqu'un dit, il n'y aura plus d'argent non plus. Plus de problèmes avec l'argent, plus d'égoïsme, plus d'orgueil. Il y aura une terre pacifiée, bénie par la présence de Dieu. Et c'est ce que raconte en partie l'Apocalypse, et c'est pour ça que c'est un livre magnifique. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus confus, de plus en plus violent. Beaucoup de gens qui n'ont pas d'instruction religieuse, qui ne connaissent pas la Bible, n'ont plus de valeurs, de repères, ils ne savent plus le bien, le mal. Ce qui est juste, injuste, et cette confusion est horrible à vivre. En plus, avec le manque d'amour, il y a la solitude qui parfois mène à la folie. Et la Bible est là pour nous apporter la réponse de Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a la droiture, la justice. Enfin, il y aura la justice. On se dit, mais que fait la police, hein? C'est la question, hein, toujours. Que font les juges? Et la France encore n'est pas la plus mal lotie. Si vous viviez au Mexique, vous vivriez un enfer permanent. Tout le monde est corrompu, vous pouvez être assassiné. Si vous ouvrez la bouche, on vous assassine, on vous découpe en morceaux. Il y a des pays qui vivent des situations terribles. Où est la justice? Elle va venir. Mais quand Dieu va rétablir la justice, ce sera partout, pour tout le monde. Il ne va pas juste arrêter les dealers de drogue, hein? Il va juger tous les êtres humains. C'est ce qu'on découvre aussi dans le livre de l'Apocalypse, le fameux jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Mais c'est merveilleux de savoir qu'à la fin, la justice triomphe. Je pense aux chrétiens qui ont lu en premier ce livre de l'Apocalypse. C'était des chrétiens persécutés par les empereurs romains successifs. Ils vivaient dans la peur. Ils étaient pourchassés, on les jetait en pâture aux fauves dans les cirques. Ils étaient torturés avant d'être exécutés pour qu'ils renoncent à leur foi en Jésus. Et ces chrétiens ont trouvé dans ce livre une consolation merveilleuse. Et j'espère que ce sera le cas pour nous aujourd'hui. Dans le premier verset, je lis « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Première chose qu'il faut apprendre, c'est que Apocalypse, ça ne veut pas dire catastrophe, cataclysme, fléau, etc. Pourtant, c'est entré dans le langage commun en français quand vous dites « Oh, c'est l'Apocalypse », ça veut dire « c'est le bazar total ». Apocalypse, ça veut dire « révélation ». Et c'est le premier mot qu'on trouve dans ce livre. En fait, Apocalypse de Jésus-Christ, ça veut dire « révélation de Jésus-Christ ». Jésus-Christ se révèle. Après qu'il soit mort et ressuscité, le Seigneur Jésus est monté au ciel et il est désormais caché par ce voile et il attend l'heure de son retour. Pendant qu'il est absent, d'une certaine façon, il a envoyé son Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur des croyants. Et ainsi, chaque croyant est un mini-Christ sur la terre, rempli de l'Esprit de Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas visible et on peut le mépriser, on peut se moquer de lui, comme je l'ai fait quand j'étais jeune. Dire « Oh Jésus, c'est des belles histoires, mais ça ne veut rien dire. » Tout est caché pour l'instant, mais un jour il y aura une révélation et ce sera immédiat, total, tout le monde verra Christ. Pour certains, ce sera trop tard et pour d'autres, ce sera une joie. La révélation, le dévoilement de Jésus-Christ. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas sur la terre. Pourquoi certains pays font ça? Pourquoi d'autres pays sont comme ça? Pourquoi telle politique? Pourquoi l'Europe? Pourquoi? On ne comprend pas les événements, mais quand Christ va revenir, tout va se mettre en place, tout va être clair. D'ailleurs, c'est ce qui arrive quand on accepte le Seigneur dans sa vie. Quand j'étais athée, ma vie n'avait pas beaucoup de direction. Donc, j'allais un peu dans tous les sens, je butinais comme les abeilles. Je disais, on va aller par là. « Oh non, ça ne me plaît pas. Ah ben, je vais faire ça, tiens. Oh non. » Et je ne trouvais pas un sens à ma vie, je ne trouvais pas même une direction, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et quand j'ai entendu parler de Jésus-Christ, de l'Évangile, eh bien, après beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, j'ai accepté le Seigneur. Et d'un seul coup, tout s'est mis en place. Tout était clair. Je savais pourquoi j'étais là, je savais où j'allais. Et le Seigneur me donnait une direction. Ça, c'est la justice de Dieu. Vous avez remarqué dans ce premier verset, Dieu a donné cette révélation à Jésus-Christ qu'il a transmis à Jean à travers un ange. Ça ne se passe pas comme ça pour tous les autres livres de la Bible. C'est seulement les livres prophétiques, et notamment un livre qui est le parallèle de l'Apocalypse dans l'Ancien Testament. L'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a une forme d'Apocalypse aussi, qui est le livre de Daniel. Et il y a beaucoup de choses qui se résolvent dans le livre de l'Apocalypse quand on connaît le livre de Daniel. C'est très proche. Et Daniel, lui aussi, a reçu des révélations d'un ange envoyé par le Messie, par Christ, par le Fils de Dieu. Et là, c'est la même chose, au point qu'à un moment, Jean va vouloir adorer cet ange qui lui explique. Et l'ange va dire, non, 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 ne m'adore pas, moi je suis un serviteur comme toi. Adore seulement le Seigneur. C'est un livre prophétique par excellence que le livre de l'Apocalypse. Et Jean nous l'explique, il dit, celui-ci, Jean, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu. Jean nous dit ici que ce qu'il a vu et entendu de cet ange est la vérité absolue. Il n'a rien changé, rien modifié. Ce qu'il a reçu comme révélation, il nous l'a transmise ici dans le livre de l'Apocalypse. Il y a l'apôtre Pierre qui écrit aussi au sujet des prophéties. Il dit « Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean n'était pas un rêveur, un mystique qui a eu des visions. Jean était un homme très terre à terre. Il était en exil à Patmos à cause de sa foi. Patmos est un bout de rocher où il n'y a strictement rien que du rocher, des grottes et des buissons. Et là, il a dû passer des moments difficiles, exilé de son pays, de la Turquie, notamment là où il était. Et Jean a reçu, a vu cet ange qui lui a parlé, qui lui a révélé les choses du futur. Et tout ce qu'il a entendu, il a écrit dans ce livre. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Et il dit, verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Il dit « Heureux celui qui lit ». Il y a beaucoup de gens, quand ils ouvrent le livre de l'Apocalypse, ils disent « Oh là là, je vais avoir peur, je vais faire des cauchemars après la nuit, c'est horrible ce qu'on y voit dedans. » En tout cas, Jean, il dit « Quand on le lit, on est heureux. » Pourquoi il dit ça? Parce que justement, on va voir, il y a des choses tellement magnifiques sur le ciel, sur l'éternité, mais aussi sur la terre, ce que Dieu va faire sur la terre. Et puis il dit, heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Dans la Bible, c'est toujours important, quand vous lisez quelque chose de la Bible, il faut y obéir. Garder, ça veut dire obéir. Il y a beaucoup, malheureusement, de chrétiens dans l'histoire qui connaissaient bien la Bible, qui connaissaient les commandements, qui connaissaient ceci et cela sur Dieu, mais qui ne pratiquaient pas. Et quand on ne pratique pas, eh bien, on vit comme un diable. Hein? On est pire qu'un athée. Il y a des athées qui ont une vie très morale. Et il y a des gens qui se disent chrétiens qui ont une vie de débauche. Et c'est une honte pour le nom du Seigneur. Il y a un cardinal qui vient de mourir et qui était très haut placé, puisqu'il était cardinal en Italie, mais il était toujours un peu en porte-à-faux avec le Vatican. Et on a retrouvé une discussion qu'il a eue avec un jésuite, un enregistrement audio, et il dit tout ce qu'il pense. Et il dit « Il est temps que l'Église catholique soit réformée. Il y a trop de pompe, que ce soit chez le pape ou chez nous, les cardinaux. Nous avons des grandes églises, mais elles sont vides. » Et puis cette pédophilie, et puis toutes ces pratiques, les femmes sont toujours mises au rencard, et puis les divorcés sont rejetés de l'Église, etc. Il a fait toute une liste de choses où il n'était pas d'accord avec le Vatican. Et je suis d'accord avec lui, il faut réformer l'Église de Rome. Ça fait 450 ans que nous le disons, depuis Martin Luther. Mais n'allons pas chercher à côté, regardons notre propre assemblée. Notre propre assemblée a besoin aussi de marcher avec Dieu. Pas simplement d'avoir des beaux discours, mais de pratiquer l'amour de Dieu, ce que dit la Bible. Car le temps est proche. Alors si Jean a dit ça il y a plus de 2000 ans, combien plus le temps est proche aujourd'hui? Les premiers chrétiens attendaient le Seigneur tout de suite. Et puis, lui n'est pas venu tout de suite. Et au bout d'un moment, ils se sont installés et ils ont oublié que Jésus-Christ allait revenir. Pendant des siècles, personne ne parlait du retour de Jésus-Christ. Et puis quelqu'un a repris l'Apocalypse et la Bible a dit « Mais Christ va revenir. Sa première venue n'était qu'une étape. Il va revenir, régner sur la terre, accomplir, finir ce qu'il avait commencé. Le temps est proche. » Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on doit toujours être prêt. Le Seigneur peut venir d'une minute à l'autre. Dans les prophéties, il n'y a rien qui retient le Seigneur. Il peut venir là tout de suite. La seule chose qui le retient, c'est sa patience envers les perdus. Il veut que tous aient une chance d'être sauvés. C'est la seule chose qui le retient. Si moi j'avais été Dieu, j'aurais jugé le monde depuis très longtemps. N'est-ce pas? Pas vous? Et je suis étonné de la grâce de Dieu, de sa patience, de supporter tout ce qui se passe sur la terre. Mais s'il le fait, c'est pour que vous et moi, nous ayons cette chance d'être sauvés. Si Dieu n'avait pas attendu 1984, où je me suis converti, je n'aurais pas été sauvé. Je n'aurais pas connu le Seigneur. et la félicité d'être avec lui. Verset 4, Jean écrit aux sept églises qui sont en Asie, et là il s'agit de l'Asie mineure. 7, c'est le chiffre qui revient dans toute l'Apocalypse, qui est aussi très présent dans la Bible. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est aussi le chiffre de l'accomplissement, de la plénitude. Quand vous terminez quelque chose, c'est 7. Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Le 7e, c'était l'accomplissement, la fin. La semaine a 7 jours. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé le monde en 6 et s'est reposé le 7e jour. On oublie ça parfois, hein, que notre semaine est basée sur la Bible. Il écrit aux 7 églises et donc, on va voir plus tard, chacune des 7 églises, elle reçoit un message très particulier. Mais 7 églises, ça veut dire toutes les églises, parce que le 7, c'est la plénitude, l'accomplissement. Et ce message de l'Apocalypse est pour notre église aussi. Et il y a des choses qui sont dites là, qui sont dures, qui sont claires, qui nous remuent. Le Seigneur Jésus a des yeux de feu qui transpercent tout et il voit tout et on ne peut pas se cacher. On ne peut pas jouer aux hypocrites, aux bons chrétiens devant le Seigneur Jésus. Il voit tout par son esprit, il sonde tout et il sait où en est vraiment notre Église. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ça y est, on commence déjà avec des choses un peu mystérieuses. L'Apocalypse est plein de symboles et d'allusions à l'Ancien Testament. Déjà, celui qui est, qui était et qui vient. Qui est-ce ? C'est Jésus-Christ, parce qu'il vient, hein, celui qui vient. Mais c'est aussi le nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament, Yahvé. C'est celui qui est. Quand Moïse a dit à Dieu, mais quel est ton nom ? Dieu dit, je suis celui qui est. Et on l'a mis Yahvé, et la Bible Second a traduit l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, il n'y a pas de futur, et pas vraiment de passé non plus. Donc en hébreu, il y a une sorte de présent perpétuel, et qui ensuite, c'est le contexte qui vous dit si c'est futur ou passé. Mais quand Dieu dit, je suis celui qui est, ça veut dire... Je suis éternel, j'ai toujours été là, je serai toujours là, je n'ai ni commencement ni fin. C'est dur à imaginer quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. Mais attends, il a bien démarré quelque part, Dieu, il est apparu un moment. Non, il n'est jamais apparu, il est là, point. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais tout ce que je sais, c'est que c'est comme ça qu'il s'est révélé. Il est. Et quand tout sera terminé, il est. Il est, il est. Et ici, nous voyons que Christ est le Dieu de l'Ancien Testament aussi. Hein. Et de la part des 7 esprits, vous rappelez le 7, l'accomplissement, c'est celui qui a toute la sagesse. Mais les 7 esprits, on le retrouve en Ésaïe chapitre 11. Vous voyez qu'il y a un rapport avec l'Ancien Testament là. Je vais lire au verset 2. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel, il parle du Messie, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si vous comptez, là, vous avez 7. Esprit de l'Éternel, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. 7. Les 7 esprits, c'est le Messie, c'est le Seigneur. Je vous ai dit que l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. En lisant l'Apocalypse, vous découvrez qui est Jésus-Christ dans toute sa gloire. En lisant les Évangiles, vous découvrez Jésus, l'homme. Et déjà, c'est merveilleux de voir Jésus, l'homme, sa compassion, son autorité, sa sagesse, ses miracles, et surtout son sacrifice et sa résurrection. Mais dans l'Apocalypse, vous découvrez le Fils de Dieu dans toute sa gloire. Celui qui a les 7 esprits, ça veut dire qu'il connaît tout, il comprend tout. Rien ne lui échappe. Il n'est jamais dépassé. Combien c'est différent de nous, n'est-ce pas? Il y a combien de choses que je ne comprends pas dans la vie? Une majorité de choses, je ne comprends pas. Et lui, le Seigneur, il connaît tout. Il n'y a jamais une chose où il se dit, tiens, ça, je n'avais pas pensé. Non. Il avait déjà pensé. Les sept esprits. Et de la part de Jésus-Christ, dit le verset 5, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. On dirait dans ce verset qu'il y a Dieu et qu'il y a Jésus-Christ à côté. Et ce n'est pas tout à fait faux, mais nous ne croyons pas que Dieu est un associé avec lui. Jésus n'est pas l'associé de Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Il est le Messie annoncé, le Sauveur. Et là, il y a Dieu et puis il y a Christ, le Messie en fait, qui est avec lui, qui est manifesté en chair. Jésus est un homme pour toujours. Même dans le ciel, il est encore un homme. Il n'a pas quitté son corps d'homme. Il a un corps de ressuscité. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, il est le premier-né des morts. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier-né des morts? Ça veut dire qu'il est le premier homme qui ait jamais ressuscité et monté au ciel. C'est le premier. Et tous ceux qui croient en lui, quand ils mourront, ils ressusciteront et iront au ciel. Laissez-moi vous dire ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Des paroles très très fortes, puisqu'elles ont été dites à l'occasion de la mort de son ami qui s'appelait Lazare. Et Jésus a consolé les sœurs de Lazare, et puis il a ressuscité Lazare juste après. Mais voici ce qu'il dit au verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Vous avez compris cette phrase? Même s'il meurt, il continue à vivre. Où? Dans l'éternité avec Christ. « Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Parce que celui qui croit en Jésus-Christ, même quand son corps décède, il ne meurt pas, elle ne meurt pas. Il continue à vivre dans son esprit, dans son âme, pour l'éternité, en attendant la résurrection du corps. Et c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir cette espérance, cette assurance. Christ est le premier-né des morts, ça veut dire qu'il est le premier à avoir vaincu la mort, et ceux qui croient en lui vont vaincre la mort. Est-ce que vous avez saisi que la mort est vaincue? C'est la défaite. Pourtant, la mort reste notre ennemi le plus dur. Hein. Même si vous êtes archi-milliardaire, vous ne pouvez pas vaincre la mort. Vous pouvez essayer de la repousser. Je pense à ces milliardaires russes hein, qui ont des yachts de 150 mètres. Ils sont blindés, ils ont des sous-marins. Ils disent, si on m'attaque, je peux m'échapper en sous-marin. Ils ont des protections anti-virus, contre des attaques de virus, anti-missiles. Ils sont entourés de gardes du corps en permanence. Mais un jour, ils vont mourir. Ils vont mourir. Par contre, le pauvre chrétien qui n'a pas un sou, mais qui a le Seigneur dans sa vie, le jour où il meurt, il ne meurt pas. Le jour où il meurt, il passe de l'autre côté. Ici, hein, on a ce rideau qui mène à une autre partie de l'église, et bien vous passez de l'autre côté. On ne revient pas normalement. Mais c'est ça la mort pour nous. C'est passer de l'autre côté. Parce que Christ est le premier-né d'entre les morts. Il est le témoin fidèle. Ce qu'il dit, ce qu'il est vrai. Il est le prince des rois de la terre. Et ça, nous allons le voir dans le futur. Christ ne règne pas encore sur la terre. Ce sont les présidents, les monarques, etc. Mais Christ reviendra régner sur la terre. Et puis, verset 5 toujours, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » À celui qui nous aime. Voilà la définition de Dieu. Il est celui qui nous aime. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez des jugements qui tombent sur la terre. Violents. Mais Dieu est premièrement celui qui nous aime. On a beaucoup de mal à accepter ça ou à le comprendre. Beaucoup de gens en France sont persuadés que Dieu ne les aime pas. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'amour pour Dieu et se disent, ben, lui aussi, il doit vraiment m'en vouloir de ne pas l'aimer, de ne pas croire en lui. Et puis, avec les épreuves que j'ai, les problèmes, je suis sûr que Dieu est en train de me punir, de me poursuivre de sa vindicte. Et beaucoup de gens sont persuadés que Dieu ne les aime pas, alors que c'est l'inverse. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes dans votre vie que Dieu ne vous aime pas. La question, c'est est-ce que vous avez fait appel à Dieu quand vous aviez un problème? Ben oui, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Ah oui, c'est logique. Vous ne croyez pas en Dieu, donc vous ne faites pas appel à lui. Mais alors, comment est-ce possible que vous dites que c'est la faute de Dieu si vous avez des problèmes, puisque vous ne croyez pas en Dieu? Et là, je mets le doigt sur un paradoxe de notre intelligence. Personnellement, j'étais comme ça. On peut être athée. Je ne crois pas en Dieu, ça n'existe pas. Et se plaindre de Dieu quand on a des problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et qu'est-ce que fait Dieu sur la terre? Et si on vous parle de Dieu, oh, ne me parlez pas de celui-là, hein, je ne veux pas en entendre parler. Mais pourquoi vous êtes fâché contre Dieu? S'il n'existe pas, vous ne devez pas être fâché. Et en fait, on sait bien qu'il existe au fond de nous. Notre conscience nous le dit. La terre le crie, la nature le crie. Mais on le fuit. Alors que Dieu, lui, nous cherche, il nous aime. Et il veut nous délivrer. Ici, il dit à celui qui nous a délivrés. Là, il parle aux croyants, aux chrétiens, par son sang de nos péchés. C'est merveilleux d'être délivré du péché. Le péché, c'est ce qui fait le plus de mal dans la vie. C'est ce qui nous détruit à petit feu, ce qui nous ronge. Le péché, c'est ce qui prend nos passions et qui nous entraîne à nous détruire et à détruire les autres avec. Le péché, c'est ce qui nous ment aussi. Il nous dit, allez, un petit péché, et puis après, c'est bon. Et puis, vous prenez un petit péché, puis il vous demande un deuxième. Allez, un deuxième, et puis un troisième, et puis finalement, vous êtes accroché, ça y est. Vous avez mordu à l'hameçon comme le poisson qui est attiré par l'appât. Vous ne trouvez pas que les poissons sont bêtes? Moi, je trouve que les poissons sont bêtes. On leur met un petit ver de terre au bout d'un gros hameçon. Ils ne sont pas fichus de se rendre compte que c'est un piège. Et pourtant, ils en ont vu des hameçons, et puis un jour, voilà. Eh bien, nous sommes bêtes comme les poissons. Le péché nous amorce par des petites choses ridicules, et on l'attrape, et après, on est accroché à l'hameçon. Et plus on tire, plus on se déchire, plus on se fait mal. Il n'y a qu'un seul qui peut enlever l'hameçon. Vous savez que le poisson ne peut difficilement enlever un hameçon. Ça arrive, hein, qu'un poisson arrive à se détacher, mais c'est très rare. L'hameçon est fait de telle façon qu'il est bien recourbé, avec un petit ergot, pour que ça ne sorte pas. Il faut que ce soit le pêcheur qui, d'une main habile, retire l'hameçon. Et de la même façon, il faut que le Seigneur nous délivre du péché. Lorsqu'il a versé son sang sur la croix, il est mort pour nous. Il est mort pour nous délivrer du mal. En quoi le fait de mourir sur la croix nous délivre du mal? Ça, c'est la question. Quel est le rapport? Le rapport, c'est que, à cause du mal que nous faisons, nous nous sentons coupables. Nous portons un fardeau de culpabilité. Notre conscience nous trouble. Et le jugement de Dieu est au-dessus de nous, parce que quand Dieu juge le péché, la Bible dit, c'est la mort. Et Christ, en mourant sur la croix, a pris ce jugement de Dieu sur lui. Il a été frappé. Alors que lui était saint et que nous, nous sommes sales et pécheurs. Le saint a pris sur lui la colère de Dieu à la place du pécheur. Et si le pécheur croit en Christ, il est sauvé de la colère de Dieu. Il n'a plus la culpabilité. Il est pardonné de toutes ses fautes. Et non seulement ça, mais il reçoit l'Esprit Saint qui vient habiter en lui et qui lui donne la force de ne plus pécher, de dire non au mal, qui lui donne une nouvelle nature. Combien de gens essayent d'être meilleurs, de s'améliorer, et puis au bout d'un moment, on se décourage. C'est parce qu'on a besoin d'une nouvelle naissance, pas d'un peu d'aide, pas d'un coach. On a besoin d'un sauveur, Jésus-Christ, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, c'est-à-dire que Christ règne sur les croyants. Il est notre roi. Et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot là, c'est des prêtres. Tous les croyants sont des prêtres. Voilà une première réforme à faire dans l'Église catholique. Tous les croyants en Jésus-Christ sont des prêtres. Mais quel genre de prêtres? Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de prêtres qui officient dans un temple. Ici, nous ne sommes pas vraiment dans un temple. Le temple de Dieu, c'est quoi? Notre corps, dit la Bible. Nous sommes le temple. Mais quand nous quittons la salle ici, c'est une salle de réunion. L'Église, c'est nous, les pierres vivantes, pas le local. Et le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs, des prêtres. Qu'est-ce que faisaient les prêtres dans l'Ancien Testament? Ils intercédaient pour le péché des hommes, de leurs frères et sœurs. Et nous, nous avons ce ministère de sacrificateur. Nous sommes sur terre, si nous sommes croyants, pour prier pour les perdus, pour parler du Seigneur aux perdus, pour les conduire à Christ. On ne les conduit pas à une église ou à nous. Ce n'est pas nous qui sauvons. Notre église ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. On les conduit à Christ, l'agneau du sacrifice. Nous avons tous ce rôle de prêtre. Est-ce que vous jouez bien votre rôle de prêtre? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes un intercesseur, une intercesseuse? Je ne sais pas si ça existe. Combien c'est important, ces hommes et ces femmes qui prient pour le monde, pour les perdus. Parce que c'est ça qui change les choses. C'est dans votre chambre, quand vous priez, que les forces de Dieu vainquent les forces du diable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Nous terminerons avec ce verset 7. On continue dans les 7. Tout œil le verra, lorsque Christ se révélera, tout œil le verra. Vous me dites, mais comment est-ce possible puisque la terre est ronde? Vous avez pensé à ça? Eh bien, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais... Avec la télé. C'est une possibilité. Avec votre iPad, tout le monde aura son iPad, c'est ça? Le Seigneur se révélera à tout être humain et sur toute la terre, et sa gloire va éclater sur toute la terre. Ce sera plus fort que le soleil. Et ce sera une lumière glorieuse et une lumière aussi de jugement. Tout sera révélé, pas seulement Jésus-Christ, mais tout sera révélé. Et tous les hommes seront surpris. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut se repentir, avant qu'il vienne. Parce que quand il va venir, ce sera en un clin d'œil. Il dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est une allusion au prophète Zacharie. Toujours l'Ancien Testament, vous voyez le lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament. En Zacharie, chapitre 12, verset 10, le Seigneur dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Une majorité d'Israélites aujourd'hui attendent le Messie comme quelque chose de futur. Ils ne croient pas que Jésus soit le Messie. Mais il y a un certain nombre d'entre eux qui croient en Jésus. On les appelle les Juifs messianiques. Ils disent, hein, Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, et ils l'ont reconnu comme leur Messie. Mais ceux qui ne l'ont pas reconnu ce jour-là verront celui qu'ils ont percé. C'est étonnant parce que Zacharie a écrit 400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il a prophétisé qu'à la fin, au retour de Christ, le peuple juif aussi verra son Messie. Ils diront, mais c'était toi finalement le Messie. C'était toi que j'ai percé. Et on peut dire, pourquoi ils l'ont percé, mais nous aussi nous l'avons percé. Chaque fois que nous avons péché, nous avons percé le Seigneur, hein, avec des clous. Nous sommes tous coupables de la mort de Christ, quelque part. Mais le peuple juif sera étonné ce jour-là, ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Et il est encore temps aujourd'hui de le faire. Jésus a accompli toutes les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Il est le Seigneur de gloire. Nous allons terminer par la prière. Et avant que je prie, je voudrais demander s'il y a ici quelqu'un, quelqu'une, qui n'est pas réconcilié avec Dieu. Si Jésus-Christ revenait maintenant, s'il ouvrait les nuées, hein, et qu'il se révélait à toute la terre, vous ne seriez pas prêt. Vous ne seriez pas